Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors, si vous pensiez qu'après la sixième émission de La Voix des Arts consacrée aux créatrices artistes espagnoles, j'en avais terminé avec elles, bah, c'est raté, car je vous propose ici une septième émission encore sur elles. Alors, après des écrivaines, poétesses, musiciennes, peintres, voici venir à nous une peintre qui demande que je m'intéresse à elle et vous la présente, ce que je vais faire encore une fois. Elle se nomme Ángeles Santos Torroella et est née en Catalogne en 1911 et elle est connue sous le surnom d'Angelita. Or, celle-ci, apparemment, d'après ce que j'ai lu de diverses sources, est considérée comme une artiste majeure de l'avant-garde espagnole et sa peinture est classée à mi-chemin entre l'expressionnisme et le surréalisme. Et c'est d'ailleurs lors d'une participation à l'exposition du Salon d'automne de Madrid en 1929 qu'elle est remarquée et reçoit une critique élogieuse sur son travail. Bon, ensuite, c'est le phénomène boule de neige. Elle exposera en groupe avec des artistes ibériques à Copenhague, fera une exposition personnelle à Paris en 1931, puis sera invitée à exposer à l'Institut Carnegie de Pittsburgh aux États-Unis et également au pavillon espagnol de la Biennale de Venise. Et ensuite, ce sera à Barcelone, etc. Alors, si vous avez écouté mes précédentes émissions, vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'elle faisait partie de ce cénacle de jeunes artistes espagnols novateurs en matière d'art. Elle subira d'ailleurs aussi l'influence artistique des poètes du groupe, c'est-à-dire celle de Federico García Lorca ou de Juan Ramón Jiménez. Alors, j'ai lu aussi qu'elle était la sœur d'un poète, également critique d'art, nommé Rafael Santos Torroella. En tout cas, elle obtiendra une belle notoriété, une reconnaissance de son travail dans les divers pays où elle aura exposé, même s'il semblerait qu'elle aussi aurait été plus ou moins perturbée dans sa progression par l'effet douloureux de la guerre d'Espagne, ce qui ne l'empêchera pas quand même de continuer à peindre. Alors elle s'installera à Paris avec son mari, peintre également, nommé Emilio Grossala, et reviendra en Espagne après le décès de celui-ci en 1975, où elle continuera de créer. Alors, inutile de vous dire que j'ai regardé de près son travail, hein, grâce principalement à ce que j'avais sous la main et sous les yeux, comme vous préférez, c'est-à-dire grâce à nos médiums modernes et donc Internet. Alors, il s'agit d'une peinture figurative où sont représentés des personnages, paysages, notamment oniriques, natures mortes, et l'on sent en effet les influences expressionnistes issues d'un réel un peu grave et celles plus oniriques, rêvées, en lien avec le surréalisme. Alors, globalement, je trouve qu'elle possède ce que l'on appelle une patte, une personnalité, et que sa peinture rayonne d'une belle présence, même si celle-ci est plutôt posée, intériorisée. En tout cas, l'atmosphère est poétique. Bon, j'ai envie de dire que c'est une belle peinture, à la fois structurée et harmonieuse. Bon, voilà, ça c'est mon avis, hein. Et voilà pour Ángeles Santos Torroella, dit Angelita, qui décédera en 2013 à l'âge plus que vénérable de 101 ans. Alors, dans ce cercle de femmes espagnoles artistes qui ne cesse de s'agrandir, j'ai quand même rencontré une sculptrice qui était également illustratrice et poétesse. Il s'agit de Margarita Gil Rueset, née à Madrid en 1908. Elle est issue d'une famille d'artistes puisque sa tante Maria Rueset Mosquera, née en 1882, était peintre, que sa sœur Consuelo Gil Rueset était écrivaine et sa nièce Margarita Clark sera poétesse et photographe. Alors, maman Rouessette s'attache à donner à ses filles une éducation complète où l'art a sa place, mais en même temps, elle favorise l'apprentissage des langues, car elles en apprendront quatre. Alors, elle veillera également à ce qu'elles puissent profiter de sorties culturelles, visiter les musées, assister à des concerts, le tout pour leur apporter un maximum d'ouverture sur le monde. Alors, il est dit que Margarita était une enfant prodige. Ses capacités hors normes furent repérées très jeune pour le dessin, et que dès l'âge de 7 ans, elle écrivit et illustra une histoire pour sa mère que sa sœur publiera en 1920. Alors, adolescente, la sculpture l'attire. Et elle s'initie en autodidacte pour présenter, à l'âge de 22 ans, une sculpture d'Adam et Ève à l'Exposition nationale des Beaux-Arts d'Espagne, où elle obtiendra là aussi un beau succès. Alors, j'ai cherché ces sculptures, qui me paraissent globalement assez fortes, voire tourmentées. Bon, j'ai l'impression qu'elle recherchait l'intensité. Son Adam et Ève, bon, évidemment, j'aurais préféré le voir en réalité pour l'appréhender sous toutes les coutures, comme il sied à la sculpture, pour m'en faire une idée plus précise. Or, ses dessins aussi sont particuliers, on peut admirer son savoir-faire, tout en notant que la plupart des dessins que j'ai vus reflètent des émotions plus ou moins douteuses au travers de personnages un peu éthérés, déjà d'un autre monde. Alors, pour en revenir à ses qualités d'artiste, à lire ce qui est écrit sur elle, nous comprenons bien qu'elle était une surdouée qui réussissait tout ce qu'elle touchait, car en peu de temps, en faisant preuve d'une maturité précoce en graphisme, elle maîtrise les techniques pour réaliser des dessins à l'encre de Chine et des peintures à l'aquarelle. Et aussi en sculpture, pour les moulages en plâtre ou des réalisations en bronze, mais également la taille directe pour la pierre ou le granit. Alors, sa vie artistique est aussi intense qu'elle est courte, une dizaine d'années seulement, car cette artiste prometteuse eut une fin dramatique que je vais vous relater maintenant. Alors, il paraît qu'elle admirait Zenobia Camprubi de Jiménez, une femme d'origine espagnole par le père, portoricaine par la mère, est née à Puerto Rico en 1887, qui était écrivaine et poète, et également traductrice, puisqu'elle s'est distinguée grâce à sa traduction des œuvres de Rabindranath Tagore, dont je rappelle qu'il était un célèbre artiste intellectuel philosophe indien, qui a laissé une œuvre variée et une marque importante de sa pensée, laquelle était axée sur les droits universels des peuples et des personnes. Et il avait d'ailleurs soutenu le mouvement de Gandhi pour l'indépendance de l'Inde. Alors, quoi qu'il en soit, Zenobia Camprubi de Jiménez, cette poétesse traductrice de Tagore, était l'épouse du poète espagnol Juan Ramón Jiménez. Et ce qui aurait mieux fait de ne pas arriver arriva, c'est que la jeune Margarita Gil Rouessette tomba folle amoureuse du poète époux de Zenobia. Amour impossible d'une jeune femme excessive. Quoi qu'il en soit, elle comprit que son amour n'aurait aucun débouché autre pour elle que la mort. Aussi, elle se suicida d'une balle dans la tête. Bon, elle n'avait que 24 ans et elle laissera une famille dévastée par la douleur. Alors, au préalable, elle avait pris soin de leur écrire, également d'envoyer son journal intime à son amour impossible, et tenta, avant de disparaître, de détruire ses œuvres, dont la plupart purent échapper à la destruction grâce à un centre culturel des Beaux-Arts de Madrid qui les avait récupérées pour exposition. Et après son décès, eh bien, la famille publiera un livre de chansons posthumes avec des illustrations, et je crois que le poète désolé écrira également sur elle. En tout cas, voilà comment s'est terminée l'existence de cette jeune artiste prometteuse qui ne fut qu'une étoile filante. Elle était excessive et entière, comme l'ont été quelques peu bien des femmes espagnoles dont je vous ai relaté la vie et les actions. Bon, il est vrai que je préfère voir ces énergies vigoureuses se mobiliser pour la défense de justes causes, comme ça a été le cas, plutôt que diriger vers la destruction de soi. Alors nous allons faire une petite pause musicale pour nous remettre de nos émotions et pour que je puisse reprendre ma respiration. Alors j'ai trouvé chez mes musiciennes une compositrice guitariste classique argentine nommée María Luisa Anido, qui est née en 1907 mais décédera en 1996 à Garagone en Espagne. Elle commencera à prendre dès l'âge de 5 ans la guitare avec son père, guitariste amateur, qui l'encouragera dans cette voie pour poursuivre ensuite son apprentissage de la guitare avec des professeurs confirmés, voire réputés. À l'âge de 9 ans, elle commencera à composer elle fera son premier récital de guitare à l'âge de 11 ans à Buenos Aires. Elle fera une carrière internationale en tant que guitariste, recevra plusieurs distinctions. Elle cessera un moment ses tournées pour enseigner, notamment au Conservatoire de musique de Buenos Aires, et reprendra ses tournées au Japon, par exemple, où elle sera accueillie avec honneur, en Russie également ou à Cuba. Enfin, quoi qu'il en soit, ce sera une guitariste accomplie, admirée par bien d'autres de ses collègues. Quant à ses compositions, elles ne concerneront que son instrument de prédilection, vous l'avez deviné, la guitare. Mais le mieux, c'est encore d'écouter María Luisa Anido elle-même à la guitare, jouant l'une de ses compositions. Et je vous propose un extrait intitulé « El Misa Chico », impression argentine jouée à la guitare. Thank you. Alors nous allons revenir à nos écrivaines qui se bousculent encore aux portes de la Voix des Arts, car il y en a encore quelques-unes, nées cette fois-ci au début du XXe siècle, et pas des moindres. Nous allons commencer la présentation par une intellectuelle, puisqu'elle était philosophe, nous dirons une penseuse. Penseuse s'appelle bien évidemment P-E-N et non P-A-N, hein. C'est qu'il s'agit de quelqu'un qui se sert de sa tête, hein, ce qui arrive aussi chez les femmes, quand même, pour ceux qui en douteraient encore. Il s'agit de Maria Zambrano Alarcón, qui est née en 1904 et était philosophe, essayiste, écrivaine, poétesse. Alors, il est vrai qu'elle était issue d'un milieu éduqué, puisque sa mère, Araceli Delgado, était institutrice et son père instituteur. Et celui-ci, nommé Blas José Zambrano, avait fondé l'Université populaire de Ségovie avec l'objectif de rapprocher la culture de la population locale. Alors, c'était un homme de gauche, socialiste, rattaché à la cause ouvrière, proche du poète Antonio Machado, qui est une figure de proue d'un mouvement littéraire espagnol connu sous le nom de Génération de 98. Et ces littérateurs essayaient vraisemblablement d'apporter du renouveau à la fois à la littérature espagnole et à leur pays peut-être aussi. Et nous pouvons supposer que Maria Zambrano, qui a grandi et baigné dans cette ambiance intellectuelle, plutôt anticonformiste, a dû s'en imprégner. En tout cas, avant d'écrire, de militer et de diffuser sa pensée, elle renoncera à des études de musique au profit d'études littéraires et philosophiques qu'elle suivra à l'Université Centrale de Madrid, laquelle avait été fréquentée, si vous vous souvenez des émissions précédentes, par Concepción Arenal, l'écrivaine contestataire militante des droits de l'homme et surtout de la femme. Mais celle-ci, au XIXe siècle, pour profiter d'un enseignement refusé aux femmes, avait dû endosser des vêtements d'homme pour passer inaperçue. Alors Maria Zambrano Alarcón y étudia dans un autre contexte qui se transforma encore au cours du temps. Et c'est aussi le lieu où elle rencontra des figures importantes de la génération 27, le mouvement que je vous ai aussi présenté. Alors, il s'agit du poète Federico Garcia Lorca, ainsi que de l'écrivaine Rosa Chassel, que vous connaissez aussi, car j'en ai parlé également dans La Voix des Arts. Alors, après ses études, elle enseignera la philosophie dans une institution, puis plus tard, ce sera à l'Université Centrale de Madrid, en tant que professeur auxiliaire. Alors, elle aura passé aussi son doctorat, rejoint une organisation scolaire, la Fédération des Universités et Écoles de Madrid, pour participer à des projets éducatifs et philosophiques. Alors évidemment, ces implications politiques feront l'objet de réflexions et d'écritures. Elle éditera ainsi son premier livre en 1930 intitulé « Horizon du libéralisme », où il semblerait qu'elle expose ses idées politiques à travers une critique du libéralisme. Et globalement, et par rapport à la politique, il est dit qu'elle distinguait deux types de politiques, l'une conservatrice et figée, l'autre révolutionnaire et transformatrice. Enfin, on peut supposer qu'elle a dû développer ce sujet. Alors, elle fut aussi élève et disciple dans sa jeunesse du philosophe espagnol Ortega y Gasset, dont la pensée était aussi étroitement liée à la politique, aux faits sociaux et à l'émergence de nouveaux paradigmes sur lesquels son esprit critique dégageait des aspects négatifs qui étaient entre autres le danger d'une uniformisation culturelle ou un possible nivellement par le bas. En tout cas, Maria Zambrano reste engagée politiquement durant la guerre civile espagnole et elle collabore en outre à diverses revues, dont une assez importante intitulée Revista del Occidente, qui englobe plusieurs disciplines culturelles, scientifiques et où de nombreux philosophes apporteront leur point de vue. Alors en 1936, Maria Zambrano a 32 ans. Elle a obtenu son doctorat, elle enseigne à la fois dans une école pour femmes et à l'Institut Cervantes, et dans la foulée, elle épouse un historien diplomate nommé Alonso Rodríguez Aldave, dont elle divorcera plus tard. En 1939, la guerre d'Espagne l'oblige à quitter son pays et elle partira au Mexique. Et pendant 46 ans, qui est une très longue période, presque un demi-siècle, elle ne remettra plus les pieds en Espagne. Ce qui ne l'empêchera pas d'effectuer de nombreux et longs voyages en Europe, aux États-Unis, en France entre autres, mais elle rentrera quand même dans son pays pour y décéder en 1991. Or, ceci dit, au Mexique, elle enseignera la philosophie dans des universités, et notamment celle de Puerto Rico. Elle publiera ses livres, intitulés « Philosophie et poésie » et « Pensée et poésie dans la vie espagnole ». Au cours de ses voyages, elle fera des rencontres, tissera des liens amicaux avec des intellectuels artistes français, comme avec le poète René Char ou l'écrivain Albert Camus. Alors, son lien avec la France par l'intermédiaire de ses écrivains et penseurs, et notamment avec le philosophe français Henri Bergson, semble être assez signifiant. Bon, on peut dire aussi que par affinité, elle se rapprochait surtout de ceux qui, comme elle, étaient révoltés contre la société, on va dire bourgeoise, hein, pour généraliser, en tout cas matérialiste. Alors, elle se liera aussi avec le philosophe roumain Émile Cioran. Bon, j'ai un souvenir de lecture de Cioran lorsque j'étais adolescente, à qui je reconnais plutôt la pertinence caustique, mais qui m'a obligée en quelque sorte à refermer son livre afin de m'éviter de m'abandonner à une mélancolie difficilement gérable pour l'adolescente que j'étais à l'époque. Et Cioran, ben vous l'avez compris, n'enjoint pas à la gaieté ni à la légèreté. En tout cas, son pessimisme, quelque peu acerbe, ne l'a pas empêché d'être élogieux sur Maria Zambrano. Alors, elle aurait été aussi influencée par la philosophie du français Henri Bergson, qui aborde des thèmes comme l'évolution, la morale, la religion, la spiritualité. Et ce dernier point semble l'interroger assez conséquemment. Alors, difficile de parler d'un ou d'une philosophe quand on n'a pas lu ses livres, à part quelques extraits épars. Bon, celle-ci m'intrigue en me donnant envie d'en connaître davantage. Alors, dans le cas où vous ressentiriez cette même curiosité, je vais vous citer quelques ouvrages et parutions de manière à vous donner quelques pistes. Alors, je vous ai déjà présenté les premières œuvres qu'elle avait publiées dans les années 30. Apparemment, elle a écrit une vingtaine d'ouvrages politiques, philosophiques, si ce n'est plus, aussi des articles, comme je vous l'avais indiqué, sans oublier la poésie que je n'ai malheureusement pas suffisamment appréhendée ou trouvée pour vous en parler. Alors, concernant sa pensée politique, révélée toute jeune, celle-ci l'a accompagnée tout au long de sa vie et jusqu'au bout, puisque le journal espagnol intitulé El Diario le mentionne dans un de ses articles, bon, je crois que c'était en 2015, où il souligne son opposition constante aux injustices jusqu'à sa mort en 1991 et son souci de défendre la liberté. Alors revenons à ses livres, car elle a écrit tout au long de sa vie. Certains de ses livres ont été traduits en français, ce qui est à noter, comme celui intitulé « De l'aurore » ou « Bien sentier » ou encore « Notes pour une mélodie » ou encore « Les clairières du bois ». Alors vous pouvez trouver de ces citations et des résumés de lecture sur Internet, notamment sur le site que j'ai noté des éditions de l'Éclat, liber-éclat.net, liber, L-Y-B-E-R. Alors, de ses premiers livres, l'un intitulé « Philosophie et poésie », elle réconcilie la pensée avec la poésie. L'être y retrouverait une unité. Bon, je citerai également « L'homme et le divin », publié dans les années 50. Alors, ce sont des essais où l'homme est confronté au sacré. Elle pose la question de savoir ce qu'est le divin et quel rapport l'être humain entretient avec lui. Un autre livre sous forme autobiographique publié en 1989 s'intitule « Delirio y destino »,« Délire et destin »,« Los 20 años de una española », »,« Les 20 ans d'une espagnole ». Alors c'est sa jeunesse dans son contexte sociopolitique et culturel de 1928 à 31. Et d'après ce que j'ai compris, ce livre nous présente Maria Zambrano et ce qu'elle promet dans l'avenir. Bon, elle donne également une description du contexte sociopolitique de l'époque. Et bien d'autres de ses écrits sont à découvrir, et les titres sont visibles sur Internet, et quelques passages traduits en français sont proposés à la lecture. Alors l'un d'eux parle de l'écriture, alors pourquoi écrit-on ? Et la question à laquelle Maria Zambrano tente de répondre, elle décortique des mécanismes ayant trait à la parole, qu'elle confronte à l'acte d'écrire, et pourquoi écrire serait d'un engagement plus profond et vrai que la parole, hein, je vais résumer ça comme ça. En tout cas, elle apporte une sorte de plus-value à l'écriture. Alors, elle parle de l'écrivain, cet être solitaire qui livre un secret. Bon, je vous invite à vous faire votre propre avis en lisant ces quelques extraits traduits. Un autre texte sur Saint Jean de la Croix, très beau, présente, et je le lis, « Le vol, l'envol et la transcendance de la créature au moyen de la mystique et de la poésie ». Bon, elle y traite donc de la mystique, hein, ce qui donne à réfléchir sur ce thème. La poésie est aussi thème récurrent chez Maria Zambrano. N'oublions pas qu'elle était poète, elle aussi, qu'elle composait des vers. Bon, je reconnais que c'est une personnalité qui aurait tendance à m'accaparer l'esprit, mais qui aussi accapare quelque peu le temps dévolu à la Voix des Arts, qui n'est pas extensible car nous arrivons en fin d'émission. Donc je terminerai simplement en disant que Maria Zambrano est reconnue globalement comme l'une des personnalités les plus importantes de la philosophie espagnole du XXe siècle. Et j'ajouterai pour les amateurs du genre, qu'il serait peut-être opportun, voire judicieux ou intéressant, d'aller voir d'un peu plus près de quoi il en retourne, voir aussi sa poésie, si possible, traduite ou non. Et c'est sur ces bonnes paroles, en l'honneur de cette personne créatrice d'une pensée singulière, que nous nous quittons. Je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute de La Voix des Arts, toujours prête à se faire entendre pour vous. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.